J'ai vu que vous êtes un homme, on va dire, polyvalent, multitâche, puisque vous avez eu une carrière théâtrale déjà, enfin, au niveau de l'écriture de pièces de théâtre. Vous avez été enseignant, ça je ne savais pas, de lettres. Et puis maintenant, je pense à temps plein, écrivain, ce qui est pas mal. Alors, j'allais dire, vous écrivez avec des styles un peu différents, puisque vous avez bien sûr des romans, des albums peut-être pour les plus jeunes, même une comédie musicale, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, une comédie musicale, Georgia, qui est magnifique, une bande dessinée qui émerge parmi toutes ces œuvres. Et puis un petit livre, voilà, Neverland, que j'ai avec moi, qui est peut-être plus personnel, plus intime, puisque vous nous livrez pas mal de récits de votre enfance. Voilà, on découvre quelques personnes de votre famille, de votre entourage. Voilà. C'est vrai que vous avez travaillé avec de nombreux illustrateurs également pour la partie album et puis bande dessinée. Alors, le dernier avec Benjamin Chaud, c'est celui-ci, Sans une façon de lire tout le temps, qui est vraiment un régal humoristique et qui va parler à tous les lecteurs. Et justement, à propos de cet ouvrage, j'ai demandé donc à Émilie, Clarisse et Éléonore de me donner quel type de lectrice sont-elles avec votre texte et les illustrations de Benjamin Chaud. Donc, Éléonore, donc, alors, elle, c'est le homard presque cuit. Donc peut-être que vous devinez un petit peu la position de lecture et où elle se trouve pour faire le homard. Alors Clarisse, donc c'est la culturiste, c'est ça Clarisse? Hein? La culturiste. Ça, c'est... Et Émilie, l'île déserte, qui est donc toujours ailleurs. Donc je vous invite à aller voir...
Voilà, ces positions, effectivement, je me souviens, c'est marrant, à chaque fois, je me souviens du moment où j'ai observé parce que je prenais des notes sur les positions de l'enfant lecteur, alors les grands-enfants aussi, j'observais depuis très longtemps, parce que bizarrement, par mon métier, que je croyais complètement solitaire, je me retrouve souvent au milieu des lecteurs, ça m'arrive d'aller à leur rencontre, et en effet, je me souviens du homard, alors là, il est sur la plage, au soleil, et il oublie complètement, et à vrai dire, le homard, c'est moi. Comme d'autres diraient, Madame Bovary, c'est moi. Moi, c'est... Bon, le culturiste, c'est le livre trop lourd, et j'en ai quelques-uns. Ouais. Et on a fait des intégrales de certains de mes livres où il y avait deux volumes à l'origine, et c'est le livre qui donne des crampes. C'est le livre trop lourd, c'est le livre... Et puis, le troisième, c'était... L'île déserte. L'île déserte, alors ça c'est vraiment, je suis parisien, je reprendrai ce soir la route vers cette bonne ville de Paris. Et il y a une chose particulière dans la grande ville qui est la lecture solitaire dans le métro, au milieu de tout le monde qui a dans la main un écran. Il y a tout d'un coup la lectrice ou les lecteurs avec Benjamin Chaud. On a décidé que ce personnage-là serait une lectrice. Au milieu du quai et qui est très 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 loin. Alors ça peut être très loin au 14e siècle dans une histoire, peut être très bien géographiquement en lisant un poète chinois, ça peut être... mais c'est cet isolement du lecteur au milieu de la foule.
Dans sa bulle.
Dans sa bulle. Et quand j'ai fait ce livre-là et que enfin, finalement j'ai rassemblé mes notes, ça a été, il a fallu réduire à 100, à 101. Sans une façon de lire tout le temps, mais il y en a des tas d'autres, et depuis que je l'ai terminé, j'en rencontre sans arrêt. J'en ai vu un très récemment, là, c'est L'Ascenseur. C'est dans une librairie, Et c'est les, je l'ai appelé le pirate aussi à un moment, dans, c'est le lecteur qui lit entièrement le livre dans la librairie. Ça, c'est courant, c'est un peu, ça fait que des libraires deviennent des libraires itinérants. et là, l'ascenseur, c'était très drôle parce qu'il ne voulait pas justement, ça c'est un enfant de 11 ans, qui ne voulait pas s'asseoir par terre pour ne pas trop donner l'impression du squat. Et il était comme ça, il descendait petit à petit en lisant, et ensuite il remontait. Il descendait en lisant, et il remontait, et voilà. Et donc dans le tome 2, je vous dis, en avant-première mondiale, il y aura peut-être l'ascenseur.
Alors moi, il y a une façon que vous n'avez pas illustrée, parce que moi je l'ai fait, c'est en passant l'aspirateur.
Bravo, voilà. Là vous êtes dans le tome 3. Là.
Alors j'enchaîne sur vous parliez de Paris, donc vous avez, vous êtes né à Paris, je crois, si j'ai bien lu.
Paris
14e, et vous avez passé donc de formidables vacances en Sèvres nantaise, c'est ça. Et puis après j'ai vu aussi des incursions dans votre enfance au Maroc, en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc multiples voyages déjà tout petit.
Oui, Il y a un mélange en fait dans ces alternances. Là, il y a celles qui ne se sont jamais arrêtées et qui continuent encore aujourd'hui. C'est celles des vacances ou des séjours dans des lieux ceux dont je parle dans Neverland sont des lieux qui existent encore. Mais par miracle, on arrive à les maintenir, ces lieux familiaux qui sont un peu comme ce prieuré, qui ne sont plus à l'échelle de notre temps et qui tiennent. On arrive à faire tenir ce lieu d'enracinement familial depuis des générations. Et puis il y a les alternances, mais je réalise que c'est comme ça que je compte le temps dans mon enfance ou dans ma vie, c'est les moments où je me déracine complètement, où je suis parti à l'âge de 4 ans par exemple au Maroc, parce que mon père était architecte et il avait de temps en temps une mission un peu plus longue, et on est parti une année au Maroc, deux années en Côte d'Ivoire, moi, ce n'est pas avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Les dates, c'est avant Abidjan, après Agadir, avant Hanoï, d'ailleurs, aussi, parce que j'ai vécu... Alors, pour le coup, à 25 ans, et partant cette fois, indépendamment de ma famille, je suis parti. Je venais de me marier, d'ailleurs, au Vietnam, à Hanoï, donc dans le nord du Vietnam. Et donc... Ça, c'est quand même des piliers dans la vie, ces moments, alors que je suis plutôt du genre à être vraiment enraciné, malgré tout, c'est étrangement, ces moments d'exil, qui ne sont pas des exils douloureux, qui sont des exils de découverte, c'est ça qui structure un peu tout ce temps. Et en fait, voilà, j'ai écrit mon premier roman en l'an 7 après Hanoï. Par exemple, je réalise là, en vous le disant, que je pourrais compter comme ça.
C'est intéressant. Du coup, moi j'ai une première question pour vous. On parle beaucoup de ce que vous écrivez, mais moi j'aimerais savoir ce que vous lisez personnellement comme livre.
Ça me passionne parce que je trouve que de plus en plus que le lecteur est mais collé à l'auteur Et d'ailleurs, si là, une méchante fée apparaissait et me disait « Désormais, tu peux soit lire, soit écrire, qu'est-ce que tu choisis ?» D'abord, je tremblerais, et sur le thème de la peur, et ensuite, je dirais que malgré tout, je crois que je voudrais continuer à lire, avoir le droit de lire. Je crois que je préfère abandonner, à condition qu'on me donne le droit de créer, quand même, d'autres choses, la cuisine ou du jardinage ou de voilà, mais ça pour le coup j'arriverai pas à sacrifier une forme de création, mais la lecture en effet c'est de là que tout est venu, mais presque en même temps je découvre l'écriture et je découvre la lecture à peu près en même temps, comme tous les enfants en fait, à peu près au moment, je sais pas si c'est en CP, il y a des experts là qui pourront dire, mais voilà, je découvre l'écriture et la lecture, et la lecture tout de suite, elle est très variée. C'est-à-dire, je lis des choses finalement très variées. Et j'ai jamais cessé de lire des choses très variées, à part des petits moments un peu obsessionnels, comme en ce moment où je suis dans le tome 3 d'un grand projet, d'une grande saga, Alma, et que j'avoue que je suis obsessionnel sur mon sujet, qui était l'Atlantique de la fin du XVIIIe siècle, les grandes plantations des Caraïbes et de l'Amérique, l'Afrique, et ensuite, alors là, et donc ça, je suis dans des lectures là-dessus qui font mais ricaner ma famille, qui, quand ils me voient avec un livre, me disent « Alors, qu'est-ce que c'est ?» Comme s'il y avait un peu de surprise, alors que forcément, ce sera sur une monographie sur le navire l'Aurore en 1784, ou quelque chose. Donc, en ce moment, c'est pas très varié ce que je lis, c'est beaucoup autour de mon sujet qui devient obsessionnel, mais non, je lis quand même d'autres choses. Mais sinon, voilà, alors c'est vrai qu'en littérature, je lis beaucoup d'auteurs morts, c'est pour ça que je suis content d'être vivant pour vous en parler, et je suis bien content qu'il y ait des lecteurs qui lisent des auteurs vivants, des lecteurs et moi c'est vrai que je lis beaucoup la littérature du 19e siècle, du début du 20e, mais j'ai une sorte de veille sur la littérature contemporaine, par exemple. Je cherche un auteur vivant que j'admire, voilà, je pense à Jean Echenoz, qui est un auteur vraiment que j'admire beaucoup. Ensuite, je peux lire du polar par période, je lis de la littérature pour la jeunesse, parce que, et ça, c'est peut-être le roman pour la jeunesse, c'est ce que j'avais arrêté, je sais pas, à 19 ans, alors que j'en ai lu énormément, avec ce qu'il y avait, c'est-à-dire dans les années 70, début des années 80, il y a moins de choses, moins grande richesse qu'aujourd'hui dans c'est plutôt les collections, alors d'abord tout ce qui est bibliothèque verte, tout ça, et puis à nouveau, on peut se raccrocher à Dumas à un moment, et justement reprendre la littérature d'auteurs morts, mais ce que j'avais arrêté de lire, justement, quand je suis devenu un étudiant lycéen sérieux qui me promenait avec Les mots de Sartre sous le bras, j'ai arrêté la littérature jeunesse. Mais j'ai repris à 30 ans en publiant mon premier roman jeunesse qui était Toby Lulness. Et là, à ce moment-là, je me suis mis en veille de ce qui se crée dans ce monde-là qui est très préservé, la littérature jeunesse. Et donc, je lis mes amis auteurs. En littérature jeunesse, qui sont Jean-Claude Morleva, qui sont Anne-Laure Bondou, qui sont François Place, Jean-Philippe Arouvignot, Clémentine Beauvais, voilà. Et voilà, tous ces. Finalement, un peu comme je prendrais de leurs nouvelles, comme je lirais des cartes postales qu'ils m'envoient, je veux savoir ce qu'ils écrivent. Et puis je lis du théâtre, je suis passionné de théâtre depuis toujours, et j'ai beaucoup aimé que vous disiez un homme de théâtre avant d'être enseignant, alors qu'on pense toujours enseignant, et puis ensuite, alors qu'en fait, je fais du théâtre depuis que j'ai 10 ans, quelque chose comme ça, et l'enseignement a été un moyen d'essayer d'avoir un métier sérieux tout en continuant à écrire du théâtre, et j'ai enseigné quelques années. Et donc, par exemple, je suis. J'ai une admiration immense pour Anton Tchekhov. Alors, je ne suis pas très original là, sur le théâtre, c'est vraiment les grands noms du théâtre, de Shakespeare. Voilà. Donc, je suis un lecteur qui mange à peu près tout ce qui lui. Parce que j'adore les livres. Justement, j'ai parlé de jardinage, les livres de jardinage, les livres d'architecture, les livres. Je lis tout ce qui me tombe sous la main et je passe chaque jour dans une librairie, je crois. Chaque jour de ma vie, je vais dans une librairie et puis l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin, dans mon domaine, la littérature dite jeunesse, parce que mon éditeur s'appelle Gallimard Jeunesse, même si la moitié de mes lecteurs sont des adultes, en fait. Dans ce domaine-là, on est un peu planqué derrière nos héros. Donc je peux arriver dans une librairie et je pourrais même prendre mes propres livres et dire... Mais ça m'a l'air remarquable, ce livre. Parlez-moi de ce livre. Et libraire, ah, mais vous ne connaissez pas. Et donc, je pourrais, comme fait ma mère, alors ça, je n'ose pas le dire, qui va refaire les piles de mes livres dans les librairies. Et je lui dis, mais c'est pas possible. Imagine, il doit avoir une caméra. Et le soir, il dit, allez, on y va, on regarde la vidéo. D'accord. Et il la passe. Ah, voilà, elle arrive. Et hop, elle pose par-dessus le Clésio, Timothée de Fombelle. Et voilà, bon, mais je crois qu'elle a arrêté.
Bah, merci beaucoup.
Bah, je vous en prie.
Pour votre réponse.
Est-ce que tu veux lire tout de suite
Ok.
Vous acceptez qu'Éléonore lise un petit bout de...
Oui. Ça me ferait très très plaisir.
Je vous lis le début.
Comme tu veux.
Ah ouais, c'est pas mal.
Du coup, je vais vous lire la toute première page.
De quoi?
Bah de Allemand, de Alma, le tome 1. C'est un zèbre sans rayures, debout dans les herbes jaunes, avec deux enfants couchés dans son ombre. Regarde comme il est grand. Elle s'appelle Alma. Elle parle à son petit frère, allongé près d'elle. Regarde. Ils sont sur le dos, serrés l'un contre l'autre dans cette prairie sans fin. Et quand le soleil bouge un peu, l'animal fait un pas pour que les enfants restent à l'ombre. Ils rient ensemble en le contemplant. Si Alma savait comme elle repensera plus tard à cette fraîcheur de son petit frère sur son côté, au clapotis de son rire. « Tu vois, je te l'avais dit, tu ne me croyais pas, » dit Alma. Le garçon ne répond pas. « Tous les zèbres de la vallée sont petits, rayés, peureux. Celui-ci est très grand, plus grand qu'une main qu'on lève au-dessus de la tête quand on est debout sur la pointe des pieds. Il a un collier de cuir attaché autour du cou. Il n'a pas de rayures et il reste là, doucement à veiller sur eux. Il n'a peur de rien. »
Ça me touche d'entendre ça parce que moi je suis 1000 pages plus loin dans l'écriture à essayer de galoper devant avec des lecteurs qui arrivent à la même hauteur que moi. Et donc, oui, c'est par là que tout commence. Et la première page, c'est ce qui d'abord invente la langue d'un livre. Je me souviens de cette page-là. Par exemple, le passage au présent, qui est quelque chose qui vraiment me glace, le présent. Enfin, j'ai toujours écrit. Justement, Toby, Van Gogh, ce sont des romans qui sont écrits au passé, parce qu'un passé simple, il y a une magie qui apparaît immédiatement. Elle entra, elle portait une vaste robe dont la traîne la suivait de quelques mètres. C'est tout de suite magique. Alors, elle entre, elle porte, c'est glacial, c'est clinique. Et je me suis dit, non, ça se passe au XVIIIe siècle. Il faut que ce soit au présent. Il faut tout de suite que je dise, je vous préviens, ça ne va pas être poussiéreux. Ça se passe aujourd'hui, ça te concerne, mon lecteur, tout de suite. Il y avait le présent et autre risque que je prenais, c'est la chronologie, commencer par le début, ce que je ne sais absolument pas faire. Je suis désolé pour les lecteurs de Toby ou de Van Gogh ou de Livre de Perles, je commence par le milieu, l'histoire, comme un mouchoir qu'on prend comme ça par le centre. Et puis, petit à petit, je vais redonner ce qui se passe avant, et c'est écrit en poupée russe. Et là, je me suis dit, non, chronologie. On commence, même si c'est très récent. Pourquoi je commence par le milieu? Parce que dans le milieu, j'empoigne mon lecteur au milieu de ma course, et je lui dis, deuxième pacte avec lui, tu ne vas pas t'ennuyer. Je te promets, je sais que le monde est fait pour que tu ne lises pas, parce que c'est de plus en plus le cas, mais t'inquiète pas. Reste avec moi, et puis petit à petit, quand je l'ai pris dans le rythme, je peux m'arrêter pour lui faire contempler un instant, enfin plus qu'un instant, justement un long moment, je peux faire une pause. Et donc là, cette première page d'Alma, ça donnait les règles du jeu que je m'imposais à moi-même. Et dans les règles, il y avait l'idée qu'il y ait 3 volumes, ce qui était tout nouveau pour moi aussi, parce que donc là je suis en train d'assumer ce pacte que j'ai fait à la première page en écrivant mon histoire.
D'accord. Bah, merci. Et j'ai du coup une question en rapport avec Alma, puisque c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. J'aimerais savoir comment vous avez réussi à trouver l'inspiration et à rendre aussi réaliste votre récit, tout simplement.
Alors, il y a des données un peu techniques comme celles que j'ai données, là, le présent de l'indicatif, dirait le prof que j'ai été. Vraiment, c'est des règles comme ça qu'on se donne. Ensuite, il y a, mais ça, pour le coup, c'est pas des techniques, dans le sens, c'est pas ma cuisine, je le fais parce que je peux pas m'empêcher de le faire. Pour rendre présent, c'est rendre faire exister en 3D le monde autour de mes personnages. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas justement sur papier glacé ou comme qu'ils soient dans les sensations quand même. Ça, c'est, et je le dis aux écrivains planqués parmi vous, parce que je sais qu'il y en a, j'en suis convaincu. Je pense que ce qui fait exister, c'est les personnages, c'est les mettre en prise avec les parfums, avec les goûts, avec des choses que le lecteur vont reconnaître. Et ça me fait penser au mécanisme de l'hypnose. À un moment, je m'étais passionné pour les mécanismes de l'hypnose qui sont souvent très simples. C'est du genre, on dit quelque chose à la personne, on lui dit par exemple, tu bascules en arrière. Et là, on lui crée, alors par des petites ruses, on lui crée un petit déséquilibre en arrière. Et en effet, alors peut-être en le faisant se pencher un peu, il sent qu'il bascule. Et tout d'un coup, il se dit, mais il dit, ce qu'il dit est vrai, ou ce qu'il dit se réalise. Et ensuite, quand vous lui dites, ton bras se lève, il a le bras qui se lève. Et c'est des systèmes de... Et moi, j'ai l'impression que je fais un peu la même chose. C'est-à-dire, quand je lui dis quelque chose d'une sensation, d'une odeur de sous-bois, par exemple, dans Neverland, quand on entre dans un salon d'une maison de campagne, cette odeur de sous-bois, et il dit, ah, ça, je reconnais quelque chose que qui avait dans la maison de mes grands-parents, qui avait dans quelque chose. Et quand après, je lui dis quelque chose d'impensable, je sais pas, Toby mesurait 1,5 mm, ce qui n'était pas grand pour son âge. C'est la première phrase de Toby. Tout à coup, il me croit, parce qu'il a reconnu de l'humanité, de quelque chose de qu'on a en commun, quelque chose. Et donc il y a quelque chose. Voilà, ça c'est un pour rendre présent. C'est, je pense à la première page de Alma 2, par exemple. C'est un personnage qui s'appelle Amélie Bassac, qui rentre dans une auberge. Il fait extrêmement chaud. Elle est à Saint-Domingue, donc dans cette ville du nord de l'île, de la partie française de Saint-Domingue, qu'on appelait Saint-Domingue, qui maintenant s'appelle Haïti. Et le cap français s'appelle maintenant cap haïtien. Et elle entre dans cette auberge, et je parle de sa robe qui devient tout d'un coup presque rigide après la chaleur de dehors, la sueur, et qui rentre dans ce lieu froid. C'est des sensations de la robe presque cartonnée, enfin je ne décris pas exactement comme ça, mais c'est des choses qu'on reconnaît, donc il y a des choses très pratiques comme ça. Et ensuite, il y a un effet de réel créé par... il faut que j'en sache 1000 fois trop sur le sujet que j'évoque. Et c'est le cas, c'est-à-dire j'essaie de me plonger, de savoir exactement, je ne sais pas, par exemple au début du tome 3, pour là aussi faire une avant-première mondiale quand même cet après-midi, pour cette nuit de la lecture en plein soleil. Il y a toute une partie qui se passe dans les journées 12, 13, 14, 15 juillet 1789 à Paris. Et là, je me suis plongé, immergé dans... Exactement, qu'est-ce que le Paris de ces quelques jours, enfin de, à la fois le Paris de la fin du XVIIIe siècle plus généralement, mais aussi de savoir minute par minute ce qui se passe, alors que mes personnages traversent ça, que ce sera quelques chapitres, que c'est vraiment pas un investissement très rentable que de travailler pendant des mois et des mois pour savoir qu'est-ce que quand on est dans un logis au quatrième étage de la rue de l'Homme Armé dans Paris, dans le Marais, en dessous, près des Halles, quand on entend, qu'est-ce qu'on entend, quelle est l'épaisseur des murs, quelle est... Donc là aussi, et ensuite on bazarde tout, hein. C'est très documenté, mais il faut l'oublier parce qu'il faut simplement qu'il y ait cet effet de réel que permet, il y a une part de coquetterie, je pense à dans Van Gogh par exemple, j'ai pris le dernier vol du Hindenburg, ce vol qui s'est écrasé, ce vol des grands dirigeables allemands de la firme Zeppelin, qui s'est écrasé dans le tome 2 de Van Gogh. Enfin, il ne s'est pas écrasé dans le tome 2 de Van Gogh, mais il s'est écrasé pour de vrai en 1937. Et j'ai pris le trombinoscope tous les passagers de ce vol, et ça a été documenté, on peut trouver les traces de tous les passagers de ce vol, les survivants, les morts. Et j'ai repéré 3 cabines vides dans cet immense vaisseau aérien. Enfin, imaginez ces grands dirigeables qui allaient vers le Brésil en 3 jours et 3 nuits, enfin, en 1930, dans les années 30. C'est absolument incroyable. Et j'ai pris les 3 cabines vides et j'y ai mis mes personnages. Mais tous les autres, et même les personnages qu'on voit à peine dans le fumoir, il y a un personnage qui a son chien avec lui, je connais sa vie exactement. C'est un type, qui un homme de cirque qui est américain, qui venait de faire une tournée en Europe. Je connais donc en savoir trop, de manière un peu maladive et inutile, et ensuite raconter à main nue, pour le coup, pas avec Wikipédia ouvert, parce que c'est pas possible. C'est pas, et puis, de toute façon, il n'y a rien sur Wikipédia qui soit utilisable. Par exemple, pour La Rue, en 1789, moi, je me plonge dans Arlette Farge, qui est une historienne extraordinaire, une historienne qui a travaillé pendant 40 ans sur les rapports de police de Paris pour essayer de comprendre ce qui... Justement, elle a écrit tout un livre sur La Rue au XVIIIe siècle. Elle a écrit... Voilà, donc je pense que c'est... Je prends tout ça et je prends moi comme matière première, l'enfant que j'étais, les sensations, l'adulte que je suis, mes grandes tristesses, mes grandes joies. Je mets tout ça comme une sorte de compost dont je me sers pour nourrir mes histoires. Et c'est ça, je pense, qui donne le réalisme. Pardon, mais faut-il que les questions sont vertigineuses. Posez des questions bêtes, vous verrez, les réponses seront brèves.
Alors moi, je viens de découvrir votre roman Néverland, ça date de la semaine dernière. J'ai trouvé ça tellement beau, j'ai adoré. Et il y a le monde de l'enfance, c'est la même enfance que vous évoquiez à l'instant. Alors, si je peux me permettre de lire un tout petit extrait. « Je n'ai jamais essayé de retenir l'enfance ou de m'y attarder. J'ai simplement voulu faire grandir l'enfant en moi, le faire progresser en le gardant vivant. Car malgré les promesses que me faisait ce nouveau monde, le pays adulte, il y avait quelque chose que je n'abandonnerais pas, l'envie d'inventer et de créer. » Fort de ça, le monde de l'enfance est omniprésent dans votre œuvre, on va dire. Et il y a une volonté farouche qui vous habite, que cette enfance qui vous constitue ne vous échappe pas, mais que vous ne la mettiez pas quand même sous cloche comme fossilisée. Elle vous constitue. Et alors, la question serait, vous êtes attaché à votre enfance et à garder votre âme d'enfant. Et pourquoi, je dirais, c'est si obsessionnel chez vous?
Alors, je pense il y a deux mois, au salon de Montreuil, là, qui est la grande foire du livre jeunesse à côté de Paris, et c'est le journal Le 1 qui m'a demandé de venir parler. Enfin, j'avais écrit une sorte d'édito sur un numéro spécial sur Peter Pan, dans le genre l'enfance qu'est bloquée, on dirait aujourd'hui, enfin bloquée dans l'enfance. Et je crois que je disais dans ce petit édito, je disais un truc comme que j'ai une tendresse pour Peter Pan, mais un peu comme pour un petit frère dysfonctionnel. Et il y a un petit peu de ça. C'est vrai que je suis attaché à l'enfance, mais je trouve que notre monde a besoin d'adultes aussi. J'ai quelque chose. Je crois que c'est dans Neverland. Pardon de me citer, mais à un moment je dis que l'écriture, c'est un peu ce que vous disiez là, c'est une manière de poursuivre l'enfance, de continuer l'enfance par d'autres moyens. Et je dis aussitôt même de perfectionner l'enfance. Et c'est un peu, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je peux me servir de mes outils d'adulte pour raconter, qui est quand même le don des enfants, raconter des histoires, ou en tout cas comprendre les histoires. C'est pour ça que j'écris en partie pour les jeunes lecteurs, c'est que c'est les meilleurs lecteurs du monde, mais vraiment, c'est-à-dire ces lecteurs qui sont changés par ce qu'ils liront, ces lecteurs qui peuvent lire 10 fois un livre, ces lecteurs qui sont sans pitié, ces lecteurs qui ont plein de raisons de ne pas lire. Donc quand ils lisent C'est, quand ils lisent, c'est qu'on a vraiment gagné, quoi, qu'on est vraiment, on l'a mérité en tant qu'auteur. Donc, j'adore ces lecteurs-là. Et je pense que l'écriture pour la jeunesse a été une manière, une sorte d'hygiène pour maintenir ce lien avec l'enfance. Je pense que le fait, je suis obligé d'être vigilant sur ce lien-là parce qu'il se trouve que mes héros ont souvent 12 ans, 15 ans ou 18 ans et que ça maintient ce canal. Je le nettoie à longueur de journée en écrivant et en pensant, même si je fais pas babubi, enfin je suis pas à écrire des choses comme on parle aux enfants, comme aux enfants et aux personnes très âgées, de la même manière, aux gens très malades, comme ça, c'est ce que m'a dit une femme avec, j'étais dans un dîner, on me disait ah, et vous qu'est-ce que vous faites, je dis bah, j'écris surtout pour les enfants, les adolescents, mais tout de suite, c'est « Ah, c'est mignon !» Enfin, il y avait un côté vraiment, genre, tout d'un coup, j'avais 5 ans. J'avais... Je voulais lui dire que dans littérature jeunesse, il y a aussi le mot « littérature ». Et donc, voilà. Donc, je pense que j'ai une sorte de vigilance... et cette obsession, elle vient d'une enfance très heureuse, ou en tout cas que j'ai peut-être reconstruite comme une enfance extrêmement heureuse, un lieu de liberté absolue. C'est ça vraiment, c'est, en particulier ces étés, vous parliez de la Sèvre nantaise, on partait voilà, le 1er juillet ou au 1er septembre, et là, il y avait une liberté totale. C'est-à-dire, si, hein, comme il y a plusieurs maisons le long de la Sèvre, des oncles, Quand par hasard un enfant ne revient pas le soir, c'est pas un drame, il doit être quelque part ailleurs. Voilà. Et donc il y a quelque chose comme ça d'une liberté, et liberté de créer. Au début de l'été, toujours mon père nous disait à chacun, alors quelle est ton œuvre pour cet été? Quelle est ton œuvre? Et il fallait un truc majeur qui serait l'œuvre, mais comme les compagnons du devoir, un petit peu, quelque chose qu'on allait créer. Voilà.
À propos de Capitaine Rosalie, j'aurais une question. Pourquoi avoir associé la guerre, l'enfance et l'école? Pourquoi avoir fait ce trio?
Alors, je pense que je savais, et d'ailleurs même au tout départ, c'était une demande, c'est mon éditeur anglais, étrangement, qui, c'est la première fois, mon éditeur anglais me demandait d'écrire quelque chose qu'ils allaient publier eux. Alors là, déjà, donc c'est une commande, ce qui est rare, très rare, il n'y a aucun livre, je crois, autre qui soit une commande. Et cet éditeur, et là je me dis, non, je ne veux pas écrire, moi, mon pays, c'est ma langue, je veux pas écrire, je veux très bien que mes livres soient traduits, et j'ai la chance que mes livres soient beaucoup traduits dans plein de langues, mais par contre, je n'écris pas pour que ce soit traduit tout de suite, parce que... Et puis, j'ai eu cette idée de... Et sur le thème, donc l'idée c'était de parler de ce thème-là, de la première guerre mondiale. Et là, en fait, je me suis dit, non, si. Déjà, ça va être écrit à la première personne, et le fait de faire parler une fille de 5 ans, même si ce n'est pas du tout une parole réaliste d'une fille de 5 ans, mais c'est quand même sa voix, c'est son monologue intérieur, j'allais pouvoir avoir une sorte de clarté de la langue, de simplicité, de fille complètement dénudée. De cette langue, de cette fille de 5 ans. Et donc, ça m'obligeait à avoir cet enfant-là comme personnage, parce que je voulais je voulais quasiment pouvoir faire la traduction en anglais moi-même, même si je refusais absolument la faire. Mais j'allais écrire en français, mais j'allais pouvoir comprendre exactement sujet, verbe, complément, ce que le traducteur allait faire. J'ai la chance d'avoir un traducteur. Une traductrice très 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 fidèle, même si celui-là a été traduit par un autre, mais qui travaillait aussi avec Sarah Ardizonet, qui est ma traductrice pour à peu près tous mes livres en anglais. Donc il y a eu un peu ça, des petites données comme ça qui ne sont pas choisies, qui sont la vie, on va dire. Et ensuite, je ne voulais pas... ça m'obligeait à être à l'arrière, parce que les enfants n'étaient pas dans les tranchées, même si certains soldats sortaient à peine de l'enfance. Et donc, on était à l'arrière. Et ça m'intéressait d'être vraiment dans un village de l'arrière et d'avoir ces échos de la guerre par le courrier. Et le courrier, les lettres de Poilu, c'est quelque chose qui me met comme une flaque depuis toujours, depuis que j'ai 15 ans. Je pense que j'ai dû découvrir un recueil de lettres de Poilu, de lettres du front. Et je trouve que c'est bouleversant, parce que c'est ce basculement dans un autre siècle, parfois en 24 heures, au début du combat, les départs, la fleur au fusil, et tout à coup cette pluie de métal qui tombe, et c'est la fin d'un monde, des gens qui n'ont pas quitté leur commune, vraiment. Et donc ça me touche énormément, et donc c'était parfait pour moi de pouvoir mettre des bribes de ces lettres que je réinventais, je n'ai pas pris des vraies lettres, mais qui passaient. Et puis il y avait l'école, parce que je voulais prendre au sérieux mon personnage. Alors que la première phrase, c'est quelque chose qui, comme j'ai une mission, j'ai un secret, je dois. Et on se dit, et j'ai 5 ans, je suis dans le fond de la classe, derrière les manteaux, on m'a mise là. Capitaine Rosalie, et là le premier réflexe, c'est l'attendrissement pour cette pauvre petite fille qui se fait tout un monde, c'est tellement mignon, c'est tellement voilà. Or pas du tout, elle a raison, elle a une mission, et sa mission, c'est de savoir la vérité sur son père, dont voilà, sa mère lui lit les lettres de son père, et elle sait qu'elle brode, Rosalie sait que ce qu'elle lit n'est pas vraiment ce qu'elle... Là, je pense qu'il y a un écho de Cyrano, acte 5, du moment où la nuit tombe, Cyrano est en train de lire les lettres de Christian, et la nuit tombe, et Roxane en retrait dans une abbaye, voilà, qui a abandonné le monde suite à la mort de Christian, voit qu'il continue à lire dans la nuit, et parce qu'il a, c'est lui qui l'a écrite, cette lettre de rupture, pas de rupture, d'adieu de Christian. Et je voulais qu'elle veuille apprendre à lire pour savoir la vérité sur ces lettres. Et donc ça me faisait rentrer dans l'école, aussi dans cette permanence de l'école. Là, en l'occurrence, l'instituteur est un homme qui n'a qu'un bras, parce qu'il est revenu du front. Et donc même si beaucoup partaient au combat, il y avait la vie qui continue avec les échos de la guerre. Donc il y a tout ça, et il y a la recherche de la vérité, qui est peut-être le centre. Et la lecture, et ça je dis ça à côté d'une libraire et à côté de lectrice et de lecteur, la lecture collée, l'apprentissage de la lecture à la recherche de la vérité, je trouvais ça très... Enfin, ça, c'est quelque chose qui me parlait.
La lecture pour accéder à la vérité.
Voilà, exactement. La lecture pour atteindre la vérité.
Et nous, à l'école, ça avait été mis en défi lecture.
C'est vrai.
Au début, les enfants, on dit c'est un album pour enfants. Oui. Quand on est au collège, par les enfants, c'est un peu loin. Ouais. Et en fait, ils ont été bluffés par le message.
C'est vrai. J'ai vu des classes de 3e, effectivement, qui travaillent sur Capitaine Rosalie, en même temps que des jeunes voix ou des récits de guerre. Et ça me touche, parce qu'effectivement, c'est plus... Mais c'est le cas de beaucoup de choses dans ce monde de la littérature jeunesse, qui peut être lu au premier degré, c'est pas, même pas à différents degrés, mais au premier degré par des adultes et qui vont découvrir une littérature. Ouais.
Il faut demander à l'éditeur qui réédite, parce qu'il n'est plus édité.
C'est vrai. Alors là, merci.
Vous ne savez pas.
Hein. Ah non. Alors là, je vais. Surtout, j'adore les colères d'auteurs. Je trouve que j'en ai pas assez.
Voilà. Donc dites-le.
Comment ça C'est un scandale. Ouais. Une œuvre majeure.
Non, mais c'est.
Ah non, mais ça n'a pas du tout. Donc c'est un livre, Capitaine Rosalie, qui est. Maintenant je commence à vraiment une collection de Capitano Rosalie, Captain Rosalie, c'est non. Et par exemple, ça a été finaliste d'un prix, le principal prix littérature jeunesse en Allemagne, ce qui me touche, vu le sujet du livre. Et c'est un livre qui est en catalan, qui est enfin dans énormément de langues. Donc là, il n'y a pas de raison que Gallimard ne suive pas.
Alors moi, j'ai une question à vous poser. Dans bon nombre de vos œuvres, vous avez... Vous exprimez une conscience écologique très marquée. Par exemple, Toby Lowness, qui est un livre qui a déjà quelques années, vous aviez déjà... Aujourd'hui, c'est la mode, mais à l'époque, on n'en parlait peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Mais pour vous, c'était déjà très puissant, cette volonté de préserver, de protéger et de mettre des héros au service de la préservation de l'environnement.
Oui.
D'où ça vous vient ?
Alors, ça vient, je crois vraiment, je suis pas trop... c'est vraiment un amour très concret de la nature. Ça vient quand même de la contemplation et de l'admiration et de la fréquentation de la nature. Vraiment, c'est vrai que justement, j'ai grandi beaucoup dans la nature et avec une... Là, on vient de me demander d'écrire, j'ai écrit ça au milieu d'Alma 3, là, juste une petite préface pour un recueil. C'est Gallimard qui fait une anthologie autour de la poésie, une anthologie poétique autour des arbres. Et ils m'ont demandé de faire un petit texte en ouverture du livre. Et je me rends compte que vraiment les arbres m'ont toujours entouré. Donc c'est quand on connaît quelque chose, on se met à l'aimer. Quand on se met à l'aimer, on veut le défendre. Et puis, pour Toby, ça devient plus largement une sorte d'attention à la fragilité, à toutes les formes de fragilité. Et ça, c'est ce qui me... C'est la conscience que me prend Toby de cet art. Enfin, en fait, j'étais parti vraiment dans un roman d'aventure, le côté, donc je réduis mes personnages, si je les réduis... Donc c'est une petite, pour ceux qui ne connaissent pas Toby Lowness, c'est une petite humanité suspendue dans un arbre, qui vit dans un arbre-monde, qui a... Mais à partir de la règle du jeu qui mesure 1,5 mm à 2 mm pour les plus costauds, à partir de là, tout est très réaliste. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... C'est simplement ces personnages qui se débrouillent dans ce monde sur 800 pages d'aventure. Et un héros, Toby, donc, qui se retrouve fugitif et poursuivi par son peuple pour des raisons... et parce que son père a inventé quelque chose dont il ne veut pas donner le secret parce qu'il s'y donne ce secret, ce monde devient en danger. Le monde dans lequel il vit. Et donc c'est venu de mes cabanes dans les arbres, de mes herbiers et de mes feuilles pressées dans une sorte de séchoir à feuilles, du jour où je ne sais plus quelle fête familiale on nous demande d'apporter, un baptême on nous demande d'apporter dans l'église une merveille de la nature, certains avec des brassées de fleurs, d'autres... Et moi, je jette une mouche morte sur l'autel, et on me dit « Ah, vraiment, pourquoi tu fais ça ?» Et je ne comprends pas en quoi, pour moi, je voyais le vitrail de l'aile de la mouche, qui pour moi était une... Alors, il se trouve, la mouche, je l'avais peut-être un peu trop serrée dans ma main, comme ça peut arriver quand on aime très fort quelque chose. Je pense à... Des souris et des hommes, là, le personnage de Lenny, et que la mouche n'était pas en très bon état. Mais, à part ça, c'était une splendeur aussi. Donc, je contemplais énormément. Oui, c'est la familiarité vraiment avec la nature. Et j'ai un autre livre qui s'appelle Céleste, ma planète, un petit livre qui est là pour le coup. Et fable complète, autant Toby. Donc j'étais parti avec mes personnages, hein, puis tout d'un coup j'ai vu que cet arbre ressemblait à notre monde. Et c'est un peu une surprise, je me suis pas dit je vais faire un étendard de la cause écologique. C'est ce monde, et j'y ai mis les choses qui comptaient pour moi, mais sans le vouloir complètement. Et effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne se démode pas, Je pense à CS Ma Planète aussi, qui vient d'être traduit, pareil, dans pas mal de langues, où il n'avait jamais été traduit parce qu'il était un peu à part dans ce que je faisais. Mais c'est triste à dire, mais le monde a tellement confirmé des choses là qui étaient en... Moi, je l'ai écrit en 2007, 2006, que c'est devenu Saving Celeste, je crois. Et Toby, même chose. Il y a un énorme projet qui est en train de se terminer là cette année, d'adaptation en série animée de Toby Lulness. Et ça aussi, ça a mis le temps, parce que depuis le début, il y a des projets, mais malheureusement, c'est peut-être cette fragilité de plus en plus visible de notre monde qui fait que les thématiques deviennent, comme disent les chaînes, il y a une chaîne qui disait aux producteurs qui veulent faire Van Gogh en série, alors série pour le coup, live, enfin avec des vrais acteurs, et les chaînes de télé disent vraiment on adore Van Gogh, etc., mais c'est pas assez concernant. Vraiment, je trouve ce mot pas très joli, pas assez concernant, alors je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, Toby est concernant, visiblement.
Merci. Alors j'ai une autre question. Vous avez énormément de personnages, donc c'est souvent des jeunes, comme vous le disiez tout à l'heure, des enfants, des jeunes, des adolescents. Ils se retrouvent tous ou presque quasiment dans des situations périlleuses, parfois même désespérées. Par exemple, Toby qui traquait, vous parliez littéralement de chasse à l'homme face à un enfant de 13 ans, donc c'est des mots difficiles. Dans Alma, c'est dramatique. Ce sont quand même des jeunes enfants, des enfants qui sont concernés de près et de plein fouet, si j'ose dire, par la traite des humains. Vous avez également dans Neverland vous-même un petit garçon qui vous égarait tout seul dans la campagne pendant plusieurs heures et qui en gardait effectivement un souvenir inoubliable. Ma question, c'est est-ce que toutes ces peurs sont liées à des situations personnelles ou est-ce que vous avez, enfin, comment avez-vous pu trouver le moyen d'exprimer aussi justement le désespoir et les émotions de vos personnages enfants, jeunes?
Alors c'est mon réflexe, mais il faut que je dépasse mon réflexe, mais mon réflexe c'est de dire c'est la stratégie de l'auteur, pour qu'il se passe des choses, il faut mettre des obstacles. Pour que un livre, c'est la fabrique du héros. Enfin, c'est comment un personnage ordinaire devient. Et ça, c'est l'épreuve qui permet ça, qui met à l'épreuve l'humanité d'un personnage. Et voilà. Mais en écoutant, et il y a quand même des trucs qui reviennent. Vraiment, c'est en vous entendant, effectivement, sur l'abandon, il y a peut-être des choses, il n'y a pas un divan là pour que je. Mais quand même, c'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent, la fuite et la poursuite. Ouais, alors vraiment, j'ai des lecteurs qui me disent, mais c'est pas vrai, je me réveille la nuit en ayant précisément poursuivi quand je suis en train de lire un des livres. Alors j'essaye de m'en défaire, mais à chaque fois ça revient quand même. Et là aussi, je me défends en disant, il faut bien un moteur, il faut bien. Donc ça peut être la quête ou la fuite. Et moi, je mets les deux. Il y a une quête et une fuite, et il y a un moteur devant, un moteur derrière, et comme ça, ça fait courir mes personnages. Si je vous raconte ma journée, alors là, il se trouve que j'ai dormi au Mont-Saint-Michel, donc si je vous raconte ma journée, il y a quelque chose d'un peu magique quand même. Mais normalement, s'il ne se passe rien, oui, l'écriture, c'est une loupe mise sur le monde, sur la réalité, pour montrer peut-être en un peu plus grand la réalité. Donc, je pense quand même qu'il y a des instants, par exemple, je parle dans Neverland, un réveil d'une sieste, la maison qui a été désertée, et je descends, et je me souviens exactement la sorte de ce papier peint là, qui était sur le mur quand je descends cet escalier. Et je me souviens des larmes et je descends et il n'y a plus personne. Et j'ai l'impression d'être le dernier habitant du monde et ça y est, ils ne reviendront jamais évidemment. Il y a ce côté aussi du présent qui paraît éternel. Enfin, il n'y a pas de raison que ce qu'on vit au ce moment-là, ça sera pour toujours. Donc il y a quelque chose comme ça Donc je pense qu'il y a ce genre de souvenirs-là qui sont fondateurs, qui peuvent être une foi ou... Et ensuite, il y a des choses... Sur Alma, par exemple, donc j'ai passé 2 années, quand j'avais 13-14 ans, l'âge de mon personnage, de mes personnages dans Alma d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, on était parti découvrir les forts sur la côte du Ghana, la côte dite côte de l'or, et les forts où étaient triés les esclaves pendant 3 ou 4 siècles. Et on était là, dans ces lieux, dans ces forteresses qui sont sur la mer, et j'ai découvert finalement l'existence de l'esclavage, je pense, à peu près en même temps que je découvrais ce lieu. Où, avec le sol de ces caves là, dans ce où en plus où il y avait personne, on était tout seul et ils étaient à l'abandon depuis un siècle et demi, et donc voilà, tout ça ça fait que je pense que c'est des et comme finalement je ne parle que de choses qui me touchent, je n'arrive pas à aucun moment je me mets à ma table en me disant qu'est-ce que je pourrais bien écrire maintenant comme roman. C'est des trucs qui me travaillent pendant des années et des années, et à un moment, je ne peux plus faire autrement que de les raconter. Il y a vraiment ça, sauf quand mon éditeur anglais me dit « Est-ce que tu pourrais écrire quelque chose sur la Première Guerre, par exemple ?» Mais là, même si c'est une demande, j'en fais un projet personnel. C'est-à-dire justement, j'axe ça sur cette recherche de la vérité, sur... la découverte de la lecture, sur des choses qui me touchent, sur les lettres de combattants du front de Verdun, voilà. Donc, on n'a pas d'autre matière que ce qu'on est. C'est pour ça que Neverland, c'était pas prévu pour être un livre sur mon enfance. Je vais pas écrire mes mémoires, voilà, je vais attendre un peu, je le ferai un jour et ça sera autre. D'ailleurs, ma famille se fichait de moi en voyant les histoires que je racontais, qui sont pas les plus héroïques ou les plus passionnantes ou les plus. C'est des petites anecdotes, mais qui pour moi parlaient de l'enfance universelle, de l'enfance en général. Je choisissais chaque évocation. Finalement, le seul cobaye que j'avais, c'était moi-même. Donc
peut-être quelques questions, parce que alors nous on en a encore plein, mais bon, quelques questions dans le public peut-être.
Bonjour. Je me demandais, pour justement vous avez évoqué Céleste, ma planète, qui est mon recueil à moi, que je l'adore enseigner, et je trouve. Que chacun d'entre nous, que ce soit des enfants ou des adultes, devrait lire ce livre parce que ça change notre vision de notre planète. Et je me demandais à quel moment vous êtes projeté dans cet enfant qui portait justement ces stigmates.
Oui, c'était un peu particulier pour moi, parce que c'était la première fois que je me disais finalement que le message passait avant l'histoire. C'est-à-dire finalement, et ça c'est très risqué, parce que moi j'espère que je transmets des choses dans mes histoires, mais je veux que ce soit dans le torrent des aventures, des parcours personnels, et puis tant mieux si on y voit de l'écologie ou de l'amour de la liberté ou de lutte contre les totalitarismes ou des voilà, tout ça, ça vient. Mais là, d'ailleurs même Céleste, ma planète. Donc, qu'est-ce que c'est ? Céleste, ma planète, c'est donc une jeune fille qui est finalement atteinte par tout ce qui touche la planète. Tout ce qui atteint la planète, l'atteint elle. Et à ce moment-là, elle devient une sorte d'allégorie de la planète. Hein, comme il y a un garçon qui est amoureux d'elle, pour sauver cette fille, il faut sauver la planète d'un certain côté. Et donc il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est un peu. Alors d'où ça vient, c'est peut-être la seule part quand vraiment l'écriture, c'est un travail, un atelier, un artisanat. Et il y a une part un peu d'inspiration, mais c'est quand même surtout du travail, mais j'avoue que là où je reconnais un peu de mystère, c'est où vient cette première petite graine qui, là, tient. En fait, si la planète était une personne, est-ce qu'on n'aurait pas envie de la sauver? C'est ça, le truc, une fille de 14 ans, voilà, qui... Et ça, cette petite phrase-là, qui est le point de départ de cette histoire, je ne sais pas très bien d'où ça tombe comme météorite. Et pour chaque livre, il y a un peu de ça, ce moment. Parfois, je vois, par exemple, Alma, le moment où je cherchais mon héroïne. C'est-à-dire, je savais, là, pour le coup, j'avais ce prénom, Alma, j'avais ce contexte-là de la traite, et j'avais tout ça, mais je tâtonnais, j'arrivais pas à trouver. Et en fait, le moment où le personnage est apparu, c'est quand elle est, tout d'un coup, je l'ai vue, ramant, enfin, nageant, comme disent les vrais marins, mais avec une rame, vers le navire, le navire de traite, le navire négrier, qui est au large, et allant elle-même, et grimpant sur le... Et tout à coup, mon personnage n'était plus une petite chose ballottée par le vent de l'histoire et la cruauté humaine, mais devenait une héroïne. Et tout à coup, je me suis dit, cette fille-là, elle ne sera jamais esclave, elle va traverser tout ça, mais elle gardera sa liberté. Et en fait, je vais décider, alors que le parcours typique de à peu près tous les livres qui essayent de raconter aux jeunes lecteurs la traite, c'est le petit enfant capturé dans son village, trimballé, les voisins, amené, etc. Et là, je voulais qu'elle traverse, qu'elle frôle tout ça. Et là, voilà, à chaque fois, il y a ce nœud qui tombe d'un peu nulle part, et je ne sais pas très bien de ça. Donc, vous voyez que j'essaye de contourner votre question, parce que comme un bon politique, parce que je trouve que c'est un peu le mystère, j'avoue. Mais je suis très heureux et j'ai très envie d'essayer, parce que c'est un livre en plus qui est accessible, Céleste ma planète, qui est, alors que j'écris des livres, je remarque qu'ils quand même souvent touchent les bons lecteurs, heureusement il y a des livres qui ils peuvent être aussi le premier gros livre de certaines personnes qui ignorent qu'ils sont des bons lecteurs, mais il y a quelque chose, et c'est très frais dans ma tête, Céleste ma planète, parce que je n'arrive pas à lire un seul de mes livres une fois qu'ils sont publiés. Mais là, il y a une adaptation au théâtre qui est faite, et j'espère qu'elle va tourner un peu partout l'année prochaine. Et je l'ai vue juste avant Noël, et donc j'ai dû me coller, j'ai dû écouter, et avec une distance de spectateur. Et j'avoue, mais alors vraiment ça ne sort pas d'ici, que de temps en temps, je trouvais que ça tenait la route. Et que même je me cachais mes petites larmes à des moments, alors que normalement je suis sans pitié pour ce que j'écris.
J'en ai en plus. Lorsque les lecteurs sont confrontés à ce livre, dès le départ, c'est quand ils se disent ne tombe pas amoureux.
Alors, ça aussi, c'est des petits liens. Avec le quotidien du lecteur qui permet de faire passer le reste. C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure.
C'était à quel âge le premier livre ?
Alors, ma maman m'a sorti, il y a un certain temps, un cahier sur lequel il y avait écrit le tour du monde en 5 ballons à gaz. Et c'est censé être ma première œuvre. 9 ans, 10 ans, pompé sur tout ce qui existait et que j'avais lu, tout ce que j'avais pu lire, le tour du monde en 80 jours, le ballon rouge, il y avait un grand mélange, comme sont parfois les premiers romans, qui sont un peu du collage, je remarque ça de temps en temps, parce que de temps en temps on m'envoie des manuscrits, tac, il y a un dragon, deux vampires, un sorcier, donc voilà, et alors c'est peut-être mon premier... Mais en fait, j'ai plutôt écrit du théâtre, très tôt, parce que le théâtre, ça a l'avantage de n'être jamais fini, et donc c'est moins intimidant. Et je me disais, voilà, là je le montais avec mes frères, mes cousins, ma troupe, au lycée j'ai créé une troupe de théâtre, et l'avantage, je me disais, bon, c'est pas parfait, mais il y aura des bons acteurs, des belles lumières, des bons décors, et ça ira. Et c'est ça, cette paralysie qu'on a tous, apprentis auteurs, d'être de ne pas être à la hauteur de nos admirations, en fait, de pas être... Et là, le théâtre me permettait de me dire, c'est, tant pis, c'est pas, il n'y a pas le côté objet fini qui doit être impeccable, qu'on ne peut plus corriger. C'est quelque chose de, c'est une matière vivante qui ne sera jamais éditée d'ailleurs, qui sera... Donc c'est pour ça que j'ai plutôt écrit du théâtre pendant très longtemps et que mon premier vrai roman édité, alors que j'étais écrivain, mais genre écrivain public aussi, même mariage, bar mitzvah, je ne sais pas, enfin...
Et pour votre grand-père.
Et pour mon grand-père en premier, effectivement, qui est une scène que je raconte dans Neverland, la première fois vraiment où je me suis senti auteur, c'est une convocation de mon grand-père qui me fait venir dans sa chambre et qui me dit, et qui commençait à pas aller bien, et qui me dit qu'il a un grand ami qui fête ses 80 ans et qui me demande d'écrire un petit mot. Et lui, cet homme, c'était mon admiration. C'était, il avait une plume incroyable, hein, mais un homme absolument bon, qui était indépassable pour moi. Et lui, il me demandait à moi d'écrire ça, et c'était une sorte de enfin ça, c'est vraiment, c'est pour ça que là voilà pourquoi je choisis ce souvenir là en particulier, c'est que c'est la naissance de l'auteur et probablement ouais. Oui.
Je me demandais pourquoi vous avez choisi pour Tony Nunes de prendre un personnage d'un millimètre et demi qui vivait dans un arbre.
L'arbre, j'ai un peu répondu tout à l'heure sur le... Quand on écrit un premier roman, autant, et c'est un conseil que je te donne, autant parler de quelque chose qu'on connaît vraiment, quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on... Moi, j'écrasais ma tête sur l'écorce et j'y voyais des paysages, un peu de mousse, ça devient une forêt. Voilà. Et donc, il y avait ça. Et puis, pourquoi un millimètre et demi ? Parce que, bizarrement, c'était le moyen de tout grandir. Un millimètre, c'est bizarre, c'est le contraire de ce qu'on pense. On pense que tout va être minuscule. Au contraire, quand on mesurait un millimètre et demi, traverser cette salle, c'est une aventure folle. On risque de se prendre un coup de semelle, se perdre dans un sac et ne jamais arriver ou tomber dans une fente entre les pierres. Et donc, tout devient plus grand. Et pour moi, ça disait quelque chose de ce que je voulais faire en écrivant. C'est-à-dire rendre les choses plus grandes, les passions deviennent plus grandes, les dangers sont plus grands, une goutte d'eau peut vous noyer. Un moustique peut vous vider de votre sang, voilà. Et donc ça, je pense que c'est pour ça que j'ai. Et ensuite cette taille-là, alors là ça a été très long de trouver la bonne taille, parce que, et là je faisais des calculs de temps, parce que je voulais qu'on puisse voyager dans mon arbre, mais que ça puisse être ces arbres que j'ai vus là le long de la route en venant et juste à côté, ça puisse être n'importe quel arbre. On a tous un arbre en tête, un arbre, et ça je voulais que ça puisse être l'arbre. N'importe quel arbre, et donc il fallait qu'il soit suffisamment petit pour que la traversée de l'arbre soit un vrai voyage. Et donc je calculais en fonction de la taille, de la difficulté de voyage à travers l'écorce de l'arbre, que ce soit une taille. Et puis enfin, un millimètre et demi, on peut se dire, si ça se trouve, ils sont là, et j'ai jamais été regardé d'assez près. Et ça, c'était important par rapport au côté Tom Pouce, enfin, côté personnages qui sont là, c'est. Bon, et puis ensuite il faut tout mettre à l'échelle, c'est-à-dire tout d'un coup se rendre compte quel est l'effet d'une coccinelle ou d'une fourmi quand on. D'ailleurs, je me perdais parce que je voulais que tout le système fonctionne bien. On ne parle pas du tout de notre monde de taille normale. Donc à un moment, par exemple, je disais dans une métaphore que j'utilisais dans mes brouillons, il y avait il l'entourait, Toby courait, il l'entourait comme ils étaient autour de lui comme des chiens de garde. J'ai dit des chiens. Mais qu'est-ce que c'est que des chiens dans un arbre, enfin qu'est-ce que ça, c'est pas. Et là, tout, et donc il fallait une attention, même dans les images, et donc c'est devenu, il l'entourait comme des fourmis de combat, comme ça, et donc tout devait être. Et il y a des moments où j'oubliais complètement l'échelle. Et c'est la seule erreur d'ailleurs qui est restée pendant 5 ans dans le livre. Il y a, ça a été traduit dans 31 langues, aucun traducteur ne me l'a dit, c'est parce que c'est un moment très très de grande tension dans l'histoire. Et je disais à un moment, et c'est une amie, Adélaïde, qui m'a un jour dit, j'ai trouvé la grande erreur de ton livre. Alors, mais non, c'est pas possible. Et ici, page, tome 2, page je ne sais quoi, elle y est plus. c'est un vieux livre de poche, mais c'était déjà, c'est dans tous les, enfin bon, ça a été très long à corriger. Je disais, la flèche, c'est vraiment la fin du deuxième tome, la flèche me frôla, bon, je ne sais plus exactement la phrase, à quelques centimètres.
Ah, ouais.
Ah ben non, vous êtes trop, vous faites les malins. Vous faites les malins, mais il y a eu un million de lecteurs, messieurs, dames, qui n'ont pas repéré ça. et pourquoi? Parce qu'ils étaient trop dedans à ce moment-là. Et qu'il y a vraiment des... Et même ma correctrice, j'ai une correctrice qui arrive à la fin, quand l'éditeur a travaillé, on dit, maintenant, ça va partir chez imprimeur, mais avant, on envoie à Annabelle. Et alors Annabelle, c'est une correctrice.
Elle traque.
Elle traque. Elle est, mais c'est pas, je sais pas qui c'est, j'ai jamais rencontré. Mais j'ai toujours honte à chaque fois parce qu'elle renvoie le truc, c'est couvert de rouge. C'est vraiment sanglant. Et Annabelle, j'espère qu'elle est pas là ici, mais elle me terrifie. Sauf que souvent à la fin du tome 1, dans les trucs, à la fin elle met, merci de me réserver la correction du tome 2. Et ça, pour moi, c'est un petit indice, quand même, qu'Annabelle, derrière son côté monstre froid, a peut-être un petit cœur qui bat. Et donc, voilà, donc les corrections, mais elle n'avait pas repéré ça. Et j'espère qu'on lui a envoyé l'erreur en lui disant, bon, tu vois que je t'ai eu, là.
C'est bien, on finit par une de vos terreurs, c'est voilà, bien pour la voilà. Journée.
Très bien,
pour
la journée.
Écoutez, alors je suis désolée, j'ai le mauvais rôle de devoir mettre fin à cette bonne après-midi. Un grand merci Timothée, ouais. Merci d'avoir partagé votre plein sens.
Je vous remercie énormément. Je suis en pleine écriture. Je m'échappe de mon atelier de travail. J'y serai encore pour 6 mois au travail, tout seul, en solitaire. Donc, c'est ma récré. C'est peut-être pour ça que je suis un peu à fond dans la manière de vous raconter. C'est que vraiment, ça m'a. Et être interviewé par des lectrices qui sont bienveillantes, on va dire, sur ce qu'on fait, mais exigeantes. Merci infiniment.
Merci d'être venu. Merci à Éléonore, Clarisse, Émilie et Cécile.